BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour et bienvenue. Il est 9h pile. Nous sommes toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est le dernier jour aujourd'hui, la clôture. Sous le soleil encore et toujours, et nous allons ensemble ce matin, pendant une heure de débat et de controverses, parler création et partage des richesses, un sujet évidemment majeur ici à Aix, avec cette question. Plutôt qu'une taxe Zuckman, ne pourrait-on pas suivre la piste de Philippe Aguillon et orienter une partie des très grands héritages vers des fonds d'intérêt public? Chiche, a dit le Premier ministre, c'était il y a... deux jours, hier soir, jeudi même à Aix. Et pourquoi pas dès le prochain budget, a dit Sébastien Lecornu. Recherche et éducation, climat ou souveraineté industrielle, les familles les plus fortunées pourraient choisir où investir ou alors seraient très fortement taxées. Une sorte de mécénat forcé. Alors, nouvel impôt ou nouveau modèle de financement. On va en discuter avec mes experts du jour et puis on va revenir aussi sur cette date spéciale. Nous sommes le 4 juillet aujourd'hui et les États-Unis fêtent leurs 250 ans d'indépendance. En 20 ans, leur économie s'est réinventée autour de la tech, de l'énergie, mais aussi de la dette. Alors l'Amérique est-elle devenue surpuissante? Comment le pays du libre-échange est-il devenu protectionniste? L'Amérique est-elle encore un partenaire fiable? On parlera de toutes ces questions en seconde partie d'émission. Voilà, il est 9h passé de 2 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business. C'est les experts et on est parti pour une heure. C'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table, non pas un, mais deux jeunes meilleurs économistes. Alexandra Roulet, bonjour Alexandra.
Bonjour Raphaël.
Professeur associé à l'INSEAD, meilleur jeune économiste 2024 et membre du Cercle des économistes, bien évidemment. À votre côté, Xavier Jaravel. Bonjour Raphaël. Xavier, professeur d'économie, président délégué du Conseil d'analyse économique, meilleur jeune économiste 2021, membre du Cercle des économistes également. Et j'ai vu, cher Xavier, jeune économiste univers le plus cité au monde en 2024. Rien que ça, je ne savais pas qu'il y avait ces classements. Félicitations Xavier, vous êtes tous les deux invités réguliers des experts. Face à vous, j'ai le plaisir d'accueillir un ancien ministre, Éric Lombard. Bonjour Éric.
Bonjour Raphaël.
Ancien ministre de l'économie et des finances, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et toujours un peu impliqué en politique, m'avez-vous dit. Et puis Ludovic de Sauté, bien sûr, toujours à mes côtés. Cher Ludovic, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la Tribune. Allez, pour commencer, d'abord, c'est le dernier jour des rencontres. Un moment toujours important pour l'économie. Cette année, un moment très politique aussi. On a vu tous les candidats défiler les uns après les autres. Tous les candidats, ou presque, puisque les extrêmes n'ont pas été invités. C'était un choix du cercle sur ces rencontres d'Aix-en-Provence. Petit tour de table rapide pour commencer, voir ce que vous avez retenu de l'ambiance et des messages importants qui ont pu être délivrés cette année à Aix. Alexandra, je commence avec vous.
Alors moi, je voudrais mettre en lumière tout ce qui se passe à côté des rencontres, c'est-à-dire qu'on a maintenant la ville d'Aix, en fait, qui se transforme au moment des rencontres, avec des cafés, avec des films, avec des pièces de théâtre. Ça me paraît très, très important.
Le off des rencontres, comme on dit dorénavant, qui est de plus en plus grand.
C'est important parce que, en fait, il y a une chose qui est de passer les grands messages, etc., un peu parfois entre nous. Ça peut être le reproche qui peut être fait aux rencontres d'Aix. Et là, quand les rencontres se mettent à aller dans la ville de façon très, très ouverte, etc., ça me paraît très positif. De même, il y a tout un programme jeunesse avec des agoras qui sont extrêmement intéressantes, où les jeunes peuvent s'exprimer. Ils ont la parole, c'est eux qui parlent.
C'est une volonté du cercle depuis des années
donner la parole.
On commence toujours par les jeunes.
Exactement. Et puis maintenant, aussi, une dernière nouveauté qui me semble intéressante, c'est de faire venir des think tanks du monde entier. C'est le Global Economic Dialogue, qui n'est pas en marge des rencontres, qui est vraiment intégré au programme officiel. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, pour ne pas avoir l'impression que c'est le tout Paris qui se déplace à Aix, c'est vraiment important de pouvoir faire entendre des voix d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient. Et c'est vraiment à travers les think tanks, je trouve, qu'on les entend particulièrement cette année à Aix.
Et qui permet de garder une forme de liant diplomatique, de diplomatie parallèle, là où entre les États, les nations, ça peut être compliqué parfois de plus en plus. Cela fait partie d'un dialogue absolument nécessaire, tout comme les entreprises le font entre elles aussi. Xavier Jaravel, oui, même question pour vous, qu'est-ce que vous retenez de ces éditions ?
Peut-être pour poursuivre dans ce que disait Alexandra. Donc les tables rondes sont aussi évidemment ouvertes à tous et toutes, et il y a beaucoup de public qui vient de la région. Et je pense qu'il y a deux thèmes qui reviennent dans la plupart de ces sessions. Le premier sur le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis notamment, donc les tendances de long terme sur le décrochage de la productivité qui font que l'Europe est à peu près 40% moins riche par habitant aujourd'hui par rapport à ce qu'elle aurait pu être si on avait eu le même taux de croissance de la productivité.
Le salaire moyen
des
en
années
France
90.
Serait à 3300 euros aujourd'hui si on avait suivi
cette
progression,
voilà,
plutôt que 2200 à peu près.
Donc ça, c'est un message qui est très souvent mis en avant, quasiment, il me semble, quelle que soit la table ronde, il y a toujours des liens avec cette tendance de long terme. Et sur les solutions, il y a moins peut-être de convergence, mais en tout cas, il y a ce thème de la jeunesse qui ressort, comme disait Alexandra, dans l'organisation, mais aussi dans le contenu, d'investir davantage dans l'éducation, d'investir davantage dans la formation professionnelle des jeunes.
Oui.
Donc ça, c'est un des, voilà, c'est ces deux grands termes, le décrochage et investir dans l'avenir, qui me semble assez présent dans la plupart des tables rondes.
Bon, je rappelle qu'on a raboté les aides à l'apprentissage dans le dernier projet de loi de finances, mais qu'on a préservé les crédits d'impôt des retraités, notamment. Donc le débat fait rage, effectivement, entre générations. Éric Lombard, je le rappelle, ancien ministre de l'économie et des finances, vous êtes un habitué des rencontres d'Aix-en-Provence. Qu'en retirez-vous cette année ?
Je suis effectivement un habitué depuis très longtemps. Je retiens deux choses. D'abord, en fait, beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie positive. Les chefs d'entreprise, quoi qu'on en dise, ils sont là, ils investissent, ils innovent, ils y croient et ils recrutent d'ailleurs. Et il n'y a pas que les chefs d'entreprise, les jeunes, j'ai été comme beaucoup dans le dialogue avec les jeunes qui se préparent à entrer à la fois dans la vie active et dans le débat politique. Et cette idée que nous allons collectivement nous en sortir et repartir de l'avance, qui effectivement est bien nécessaire. Et le deuxième sujet qui est lié, et ça qui est merveilleux à Aix, c'est cette qualité de dialogue entre personnes qui ne sont pas forcément d'accord,
oui.
Que ce soit entre des dirigeants. Moi, j'étais sur une table ronde avec une ancienne ministre néerlandaise et le président de la Bundesbank. Bon, voilà, on peut dialoguer des finances publiques, on n'est pas forcément dans la même histoire. Mais avec l'ensemble des intervenants, les désaccords se traitent dans le dialogue, dans le respect mutuel, dans la recherche de solutions. Et ça, c'est un modèle... peut-être pour l'ensemble du fonctionnement du
pour
pays.
La suite, le débat
parce
plutôt que le combat.
C'est efficace, c'est beaucoup plus agréable, ça va beaucoup plus vite. Et puis c'est comme ça qu'on trouve des solutions.
Après, Alexandra l'a souligné un peu, et il y a quand même une forme d'entre-soi aussi à Aix-en-Provence. C'est une critique qui est régulièrement adressée avec ce choix du cercle, hein, qui a été très net de ne pas accepter
ni à
l'extrême, ni à droite, ni à gauche.
Je veux revenir là-dessus, parce que je fais partie du conseil d'administration qui pilote ces journées, donc on a pris la décision au conseil d'administration. Les responsables politiques qui sont venus ici, et ils étaient très nombreux, notamment oui. Les présidentiables, ont eu un dialogue sur les sujets que nous avons mis à l'ordre du jour. Et un dialogue respectueux, dans les temps impartis, et sans vouloir dire « je suis présidentiel, je suis Premier ministre et je veux plus de place ».
Pardon, Jordan Bardella est invité à la REF du MEDEF et tout se passe très bien, tout comme...
Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il a respecté les règles.
Mais
quand ces partis sont venus ici parce que c'est arrivé, ils en ont fait des tribunes. Et ils en ont fait des happenings. Et ils ont dévoyé la culture, qui est une culture respectueuse de... parité entre l'ensemble des intervenants, les universitaires, les entreprises, les jeunes. Et c'est difficile d'inviter des gens qui d'abord ont une vision très différente. Mais pourquoi pas ? Il y a déjà des gens qui ont une vision très différente.
C'est la moitié.
Et surtout qui ne veulent pas s'inscrire, qui ne veulent pas s'inscrire dans la méthode de dialogue qui est la nôtre. Et pardon d'en parler deux minutes de plus, mais quand j'ai préparé le budget 2025, j'ai reçu tous les partis. Et comme j'étais dans une responsabilité politique, j'ai évidemment reçu, y compris la France Insoumise et le Rassemblement National. Nous n'avons pas pu nouer de débat sur le budget. Le Rassemblement National n'a voulu parler que d'immigration, qui est un sujet de débat honorable, et c'était pas la question. Et quant à la France Insoumise, ils sont pas venus du tout. Donc, je respecte les idées de ces deux partis, je connais leur représentativité, mais il y a des règles de dialogue si on veut progresser, et je pense que c'est très important à Aix, et on ne doit pas déroger là-dessus.
Alexandra voulait dire un mot avant de passer à Ludovic.
Oui, on a eu ce débat aussi entre membres du cercle. Personnellement, je pensais que ce que le MEDEF avait fait l'an dernier
à la REF,
le panel auquel vous faites référence, avait bien fonctionné, de mon point de vue. d'aller de mettre tous les candidats. Je trouvais que ça avait été aussi un dialogue respectueux et intéressant, que Patrick Martin d'ailleurs avait fait respecter tous les intervenants, y compris
tout était très cadré. C'est vrai que ça a été salué, voilà.
Mais c'est un débat qu'on a eu entre membres du cercle, et pour le cercle
tout le monde n'était pas d'accord, hein. C'est vrai qu'il y a eu un vrai débat, une vraie discussion,
voilà. Non, mais je pense que la majorité clairement des membres du cercle était opposée au fait de faire intervenir les extrêmes, mais aussi avec l'idée que c'est quand même des rencontres économiques et non pas des rencontres politiques.
Oui.
Et il y avait cette
particulière cette
de
année.
Faire dériver trop le débat vers quelque chose qui était juste le débat vers les présidentielles, alors que encore une fois il y a tout le sujet aussi international qu'il faut pas oublier. On n'est pas juste un événement franco-français.
Oui.
Et deuxièmement, c'est quand même des débats de fond économiques, donc on voulait avoir des débats rationnels, pas donner des plateformes comme Éric Lombard l'a très bien expliqué. Et donc il y avait un souci de préserver la cohésion des membres du cercle. Et donc à partir du moment où il y avait une majorité qui se très claire, très nette, qui se dessinait pour ne pas faire intervenir les extrêmes, il était évident qu'il fallait respecter cette position du cercle.
Bon, c'est très clair. Ludovic de Sauté, caboché comme un fou pendant trois jours pour couvrir pour la Tribune cet événement exceptionnel. Allez voir sur le site, vous allez avoir plein d'informations formidables.
Merci et merci aux équipes. Non, je rebondis sur ce que partageait Eric, parce que je pense qu'on a tous senti une énergie réellement cette année. Moi, ce qui me marque, c'est quand même on avait une double perspective. Hein. C'était il y a deux mots qui sont ressortis, c'est évidemment budget et présidentiel. Donc ça, c'est la petite musique de fond. Moi, ce qui me marque et qui se confirme, j'allais dire presque d'heure en heure, c'est un changement d'attitude, sûrement nourri aussi par le fait d'avoir voulu quand même mettre de côté les extrêmes. C'est-à-dire, soyons capables de nous asseoir, soyons capables de poser des diagnostics et soyons capables de retrousser les manches. Et là, je trouve que les rencontres cette année, j'espère que c'est le point de départ d'une énergie sur lequel on va pouvoir construire une logique de compromis utile.
Oui.
Et c'est
ça,
important.
Ça, c'est la version optimiste.
Ouais, oui.
Pour les politiques.
Non, mais je suis
mais le constat est partagé.
On va y arriver. C'est-à-dire que il y a évidemment là, vous allez dire, ça il est gentil, c'est un bisounours, c'est tout
mais
ça.
Mais pas du tout. On aime nourrir l'optimisme. L'optimisme de la volonté.
Je suis pas, parce que je pense qu'on commence à être dans le registre. On va plus loin que l'autosuggestion là. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est déclenché, et notamment, d'ailleurs, on en parlait hier ensemble sur les experts. Il s'est passé des choses importantes ces dernières semaines. Je pense au détroit d'Hormuz, la réaction des Français qui ne sont pas descendus dans la rue sur le prix de l'essence et tout ça.
Oui,
c'est-à-dire qu'il se passe des choses sur la compréhension des enjeux économiques. Et là, ce qui est en train de se jouer début juillet est important parce qu'on se retrouve peut-être de façon un peu dans l'entre-soi, mais derrière, on va tous s'éclater, j'allais dire, dans la vie économique du pays. Et je pense qu'on va être porteur d'un discours en disant il y a des chemins possibles, avec une crainte, hein, c'est la présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qu'on estime impossibles et incompatibles avec les enjeux économiques qu'on a traités.
Ben oui. Bon, ben on va voir si l'esprit d'Aix-en-Provence se diffuse de partout dans les campagnes françaises durant tout l'été. On le souhaite parce que les débats ici sont quand même absolument formidables. Et un des grands débats qui ont animé les soirées hier soir, beaucoup. Évidemment, alors vous l'avez dit, hein, on a parlé budget beaucoup hier, et c'est le sujet de la fiscalité. Ah oui, on est quand même revenu avec une nouvelle taxe. Est-ce une taxe ou pas ? C'était un peu la question posée hier soir après les déclarations du Premier ministre Sébastien Lecornu. C'était jeudi soir, ici même, qui a dit chiche. Chiche pour reprendre une proposition de Philippe Aguillon, qui est de s'attaquer aux grands héritages, mais vraiment les très 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 grandes fortunes des milliardaires, pour orienter une partie de ce patrimoine vers des fonds d'intérêt public destinés à la recherche, l'éducation ou à la défense. Une sorte de fondation un peu en quelque sorte, comme ce qu'on peut voir aux États-Unis, ou à défaut, s'ils ne le font pas, d'être taxés là, véritablement, très fortement. Bon, le Premier ministre ajoute derrière qu'il va falloir trouver quand même 6 milliards dans le prochain budget pour équilibrer certains comptes. Et donc les débats hier soir, c'était beaucoup. Est-ce que c'est une nouvelle taxe ou un moyen d'éviter une taxe Zucman de manière assez habile ? Alors, bonne ou mauvaise idée, Alexandra Roulet ?
Alors, je pense qu'en fait, ça contribue tout à fait à ce que Ludovic essayait de dire, de construire ensemble. Donc, le point de départ de Philippe Aguillon, c'est de se dire... Alors, je pense que là où on aura peut-être le débat avec Xavier, c'est que est-ce qu'il y a déjà un problème à traiter ? Est-ce que la concentration des richesses au sommet...
On peut commencer par ça.
C'est peut-être parce qu'avant de parler de l'outil,
faisons le constat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de concentration du capital entre trop
de vue-là, il me semble que même si les priorités qu'on doit avoir, c'est évidemment, et là je pense qu'on sera tous assez d'accord, l'éducation, la productivité, l'emploi, la souveraineté. Il n'empêche que pour justement construire ensemble, comme vous le dites, pour en fait faire société, donc pas tellement nécessairement dans un enjeu de finances publiques, mais plutôt vraiment dans un enjeu de répondre en fait aux préoccupations des citoyens, on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas de sujet sur le fait qu'il y a des fortunes au sommet des distributions qui se sont énormément accentuées dans les dernières décennies. Ce n'est pas propre à la France, pas du tout. C'est un sujet qui est mondial, c'est la mondialisation qui fait que les sociétés empires un peu ont maintenant donné lieu à des fortunes qui sont très importantes. Et je pense que c'est intéressant l'idée de Philippe qui est de dire il faut que ces personnes-là remettent dans le pot commun.
Oui.
Et donc là, ce n'est pas des fondations comme aux États-Unis, à ma compréhension, parce que ce seraient des fondations gérées par la puissance publique.
Oui.
C'est quand même une distinction.
C'est la différence entre les deux rives de
C'est quand même une distinction, parce que le problème de du modèle de philanthropie, c'est que du coup, la personne très fortunée peut exactement choisir dans quoi elle investit et ce qu'elle choisit de soutenir. Alors que là, il y a quand même l'idée que ce seraient des fondations d'intérêt général gérées par la puissance publique, essentiellement, je crois, pour des sujets de souveraineté, avec l'idée que c'est ce qui fait un peu consensus dans la population. Donc, soit des sujets de souveraineté, soit des sujets d'éducation, vraiment construction de l'avenir. Et l'idée, c'est que c'est d'essayer de trouver une façon dans laquelle peut-être les grandes fortunes elles-mêmes se reconnaissent, parce qu'elles peuvent avoir l'impression de contribuer à l'intérêt général, qui est quelque chose dans lequel elles peuvent être fières, en fait, plutôt que de donner leur argent et de pas trop savoir à quoi ça va servir, et qu'en même temps, ça répond à une préoccupation des Français. Donc, après, je pense qu'il faut vraiment voir les détails, et là, c'est là que ça devient peut-être plus compliqué.
Bah oui,
mais sur l'esprit, je pense que l'esprit répond exactement à ce que Ludovic essayait de mentionner, qui est de construire ensemble, de bâtir des compromis.
Bon, et la mécanique reste transférée du capital privé vers du capital public, alors certes pour le bien commun. Votre avis, Xavier Jaravel ?
Peut-être pour rappeler un point qui est que la lame de fond, c'est celle qu'on appelle la grande transmission. C'est-à-dire qu'avec le vieillissement et la hausse de la concentration du patrimoine, mais tout en haut, c'est-à-dire le 0,001% des contribuables, vous allez avoir une grande partie du capital qui est hérité, aux alentours des deux tiers dans les 10 prochaines années, alors qu'il y a 50 ans, c'était plutôt un tiers. Et donc, ça pose effectivement la question de cette transmission. Et il y a plusieurs
On peut rappeler les quantum, hein. La grande transmission, c'est quand même entre 5 et 9 000 milliards d'euros, entreprises tout compris, mais entre 5 et 9 000 milliards d'euros qui vont changer de main d'ici 2040.
Oui, après, c'est un phénomène de long terme, et ça dépend aussi des donations anticipées, etc. Et donc, il y a tout à fait un sujet, il me semble, sur l'héritage. Après, on peut avoir effectivement des approches un peu hybrides. Je pense que, donc, en fait, tout ça a été cité dans une... Enfin, à la base, c'était une idée qu'on avait mentionnée dans une interview avec Alexandra et avec Philippe Aguillon pour l'Express, et qui faisait aussi partie d'un package. Donc, il y a aussi d'autres mesures, par exemple, plus directes sur la taxation de l'héritage. Il y a des dispositifs comme le Dutreil, qui sont un peu dévoyés.
Mais il faut protéger ou pas dévoyés. On en parle à chaque PLF dorénavant. Ouais, Dutreil, avec des grosses craintes du côté des chefs d'entreprise qui nous écoutent.
Du coup, pour remettre ça en perspective, le Dutreil, c'est censé permettre la transmission d'entreprise. En pratique, vous avez le droit de mettre des biens personnels jusqu'à 49% de la valeur concernée par le pacte Dutreil. Donc, c'est assez évident qu'il faut enlever ces biens personnels de l'enveloppe du Dutreil.
Oui.
Et donc il y a
des biens sanctuaires, comme on dit.
Il y a plein d'autres. Il y a aussi des sujets plus structurels. Par exemple, la politique de la concurrence, c'est aussi une manière de long terme, mais probablement beaucoup plus puissante, de permettre à ce qu'il n'y ait pas la constitution de rente. Et donc moi, ce qui m'inquiète juste un peu, c'est qu'on reste un peu en boucle sur des débats qui sont intéressants mais pas totalement novateurs, et qu'en revanche on fasse moins sur, on n'amorce pas les virages sur la productivité, sur l'éducation, sur la politique de l'emploi, qui est d'ailleurs les trois priorités qu'on avait identifiées au début de cette interview. Alors l'un n'empêche peut-être pas l'autre, mais le temps médiatique est limité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle du coup plutôt de cette fiscalité que d'autres priorités.
Et de combat idéologique plutôt que de pragmatisme économique parfois et bien souvent, et d'efficacité. C'est un sujet que vous avez beaucoup agité, Éric Lombard, ce sujet de la taxation des plus riches, en indiquant que vous aviez vu à Bercy des fichiers de milliers, de plus de dizaines, je sais plus si vous avez dit des dizaines de milliers ou plus de 10 000 foyers, en tout cas, de gens soumis à l'IFI, mais qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu. Quelle est votre analyse sur, un, la proposition qui a été faite, et ex post, quelle... bilan vous tirez de cette séquence sur la taxation des patrimoines à l'IFI qui ne payaient pas d'IR?
Il faut essayer de distinguer les questions. Il y a une première question qui est le partage de la richesse dans l'entreprise entre le capital et les salariés, puisqu'on a Aix. Hommage à l'animateur des journées d'Aix, Jean-Hervé Lorenzi. Dans son dernier livre, il démontre que l'optimum historique, c'est un tiers pour le capital, deux tiers pour les salaires, ce qui permet aux salaires de monter, de consommer plus et de faire la croissance économique. C'est ça qui a fait le succès économique de l'Europe et des États-Unis au XXe siècle, et c'est ça qui a déréglé. Et c'est ça qui explique ce qui est un grave problème, c'est qu'on a beaucoup de salariés dont le pouvoir d'achat n'augmente pas. Donc il ne faut pas omettre cette question qui est économiquement, j'en parle sous le regard de deux experts, la plus importante. La deuxième question, c'est le patrimoine, donc ceux qui détiennent les entreprises. Et là, à l'évidence, on a un problème, une question à se poser, c'est que aussi bien les salaires n'augmentent pas, que le patrimoine de ceux qui ont un patrimoine, et pas seulement les chefs d'entreprise, pour des raisons bien, bien documentées aujourd'hui, a augmenté de façon très nette. Mais surtout, ce qui a été dit de façon très claire lors de la commission d'enquête du Sénat sur les hauts patrimoines, et je cite les hauts fonctionnaires qui sont exprimés, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui ont un patrimoine élevé peuvent décider de leur niveau de revenu. Or, la base de la taxation en France, de la contribution et au financement de la sécurité sociale et au financement de l'État, ce sont les revenus. Et donc on a effectivement, c'est ce qu'on a observé à Bercy et ce qui a été bien documenté par cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale, des personnes qui ont des patrimoines importants, mais qui pilotent le revenu de telle sorte à ce que leur contribution à la sécurité sociale à l'État soit extrêmement modeste, ce qui pose deux problèmes.
Ce en quoi on peut vous, pardon Éric Lombard, mais ce en quoi on peut vous répondre, sont les bénéfices non distribués effectivement, mais qui ont été déjà taxés en amont, tous ces bénéfices, ils ont déjà payé l'impôt dessus, alors pas les cotisations
sociales. Je connais l'argument Raphaël, mais c'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise. L'entreprise paye l'impôt sur les sociétés, paye des charges sociales. Le salarié lui-même paye l'impôt là-dessus. C'est comme ça qu'on fonctionne. À chaque fois, l'impôt est prélevé un peu en cascade. Et après, le salarié, quand il transmet, il paye lui-même un impôt sur les successions. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le dividende, effectivement, qui vient d'un bénéfice qui a été taxé, lui-même est taxé dans les mains du propriétaire. Et c'est quand même comme ça depuis toujours. Mais ce que nous avons vu, c'est que ça signifie que les personnes qui ont un patrimoine important, leur contribution au fonctionnement de l'État, quand même, nous dépensons
57%. On ne taxe pas assez les riches en France, vous trouvez ?
Les chiffres, par exemple, de l'Institut des politiques publiques montrent que le taux de taxation du quartile de 0,1% supérieur, les 0,1% qui ont les plus hauts revenus et le plus haut patrimoine, est inférieur à la moyenne. C'est quand on regarde l'ensemble des impôts payés par les Français.
Un tout petit peu dégressif. Ça, vous l'avez étudié au CAE.
Un vrai sujet là-dessus. Alors,
oui.
De ce fait, il faut voir que le débat monte, y compris en Californie, chez les fondateurs de l'IA,
oui.
Des gens comme Dario Amodei d'Anthropic, comme quoi, dans un monde où il y a de plus en plus de capital et par ailleurs de moins en moins de travail,
ça pose une vraie question.
S'il n'y a pas une réflexion
oui.
sur la contribution du capital au fonctionnement du bien commun, et après je reviendrai sur la proposition de mon ami Philippe Aguillon, qui est une autre question, mais je pense que cette question elle est importante et elle doit être traitée dans le débat politique avec différentes options, et effectivement vous en avez cité plusieurs.
Sauf que ce qu'on sait, c'est que le travail est fixe, le capital est mobile, et que quand on a aligné la fiscalité des deux, cher Éric Lombard, on a vu les recettes s'effondrer sur
oui, mais, alors, pardon,
les dividendes, et quand on a mis une flat tax, là, les dividendes, les recettes fiscales ne sont pas volées. Hein.
Mais je veux faire observer que la proposition, et on ne va pas faire de technique que oui. j'ai faite,
on est dans les experts, hein, on peut faire
la technique. Elle est beaucoup moins mordante pour les détenteurs de capital que ne l'était l'ISF, tel que Nicolas Sarkozy et François Fillon l'ont amélioré, si je puis dire, en 2011. Donc on n'est pas non plus dans un gauchisme échevelé. Et échevelé, pour moi, ça s'applique mal.
Xavier Charavel, juste un point sur cette dégressivité de l'impôt qui fait tellement polémique en France. Alors, très franchement, moi, je vous rejoins entièrement. Je pense que les vraies questions de prospérité française ne reposent pas sur ce sujet-là. Dopons la croissance, la productivité et l'emploi absolument de partout. On vivra beaucoup mieux. Mais cette question de la justice fiscale, elle est majeure en France et dans l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a une réelle dégressivité ou pas ? Il y a toujours le débat sur cette toute infime partie.
Effectivement, peut-être pour résumer les chiffres que Éric Lombard commençait à donner, c'est vraiment au sein du 0,001%.
C'est 1800 voilà, ménages.
Et par rapport au 0,1%. Donc en gros, il n'y a pas de débat jusqu'au 99,9% des gens. Et ensuite, voilà. C'est vraiment tout en haut, avec une certaine mesure du revenu qui prend en compte les revenus de l'entreprise. Donc c'est oui. pas le revenu fiscal habituel. Et après, il y a tout un débat justement d'experts sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. C'est un peu le débat que vous avez commencé à avoir. Si on prend en compte l'IS, si on prend en compte les impôts de production, d'autres ne le prennent pas. Après, il y a aussi des cas qui sont très différents, qui utilisent des holdings patrimoniales pour en fait réinvestir cet argent avec un contrôle total, ou qui laissent l'argent totalement dans l'entreprise. Donc il y a des cas assez différents. Il y a aussi une grande difficulté à mesurer les enjeux pour les finances publiques. Donc l'étude de l'IPP en l'occurrence a été révisée entre sa précédente version et la version actuelle.
Oui, il y a une réactualisation.
Et cette sous-taxation qui était de 15 milliards dans la version précédente est maintenant de 5 milliards. Parce qu'en fait, il faut faire pas mal de, voilà, d'hypothèses que les mesures sont imparfaites. Donc et tout ça pour dire qu'on peut avoir ce débat, très, très bon débat. Je pense que si on avait que ce débat, ce serait quand même un problème. Et que par ailleurs, dans une période de finances publiques contraintes, parier sur ce levier comme un levier majeur de rétablissement des comptes publics
oui.
serait.
On a 100 milliards à trouver, imprudent. C'est pas sur les. Alexandra, puis.
Une phrase, parce que justement, il faut peut-être élargir aussi à d'autres sujets, mais c'est vrai que je pense pas que ce soit un outil de rétablissement des finances publiques pour les raisons que Xavier mentionnait, oui. pour les raisons que vous mentionnez vous-même. Le but n'est pas nécessairement de maximiser les recettes fiscales, c'est pas le meilleur moyen d'avoir des recettes fiscales. C'est un sujet de contrat social. Oui. C'est un sujet, on ne peut pas dire qu'on lutte contre la fraude sociale en bas et pas lutter contre l'optimisation fiscale en haut. Je pense que c'est ça le sujet. C'est un sujet en fait éminemment politique, au-delà des débats d'économie.
Alors parole aux politiques et puis un mot Ludovic.
Mais je vais dire la même chose avec mes mots. Le sujet dont on parle dans toutes les hypothèses, on parle de peut-être 2 milliards d'euros. Donc ce n'est pas du tout un sujet de finances publiques, c'est un sujet d'équité, mais c'est ça qui est vraiment important, précisément c'est l'équité. On était tous d'accord sur tous les plateaux que nous allons devoir pendant plusieurs années faire du rétablissement de nos comptes publics, qui demandera un effort partagé. Et si l'effort n'est pas partagé, comment voulez-vous que les Français l'acceptent s'ils ont l'impression que même 0,001% échappe à cet effort? Donc c'est un
on peut pas dire ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend, mais cher Eric, pardon, il n'échappe pas à l'effort, il participe quand même aussi énormément à l'augmentation des recettes, ils n'échappent pas à l'impôt, on est d'accord. Ils le réduisent, ils optimisent un peu, tout comme nous on fait aussi peut-être.
Alors, pardon, c'est là où je reviens sur ma distinction initiale. C'est là où je reviens à ma distinction initiale. Il y a l'entreprise et il y a les propriétaires d'entreprise. Et ce qui a été documenté par l'Assemblée nationale avec l'aide de Bercy, c'est que 133 000 ménages avaient un revenu fiscal de référence quand on regarde tous les revenus, y compris les revenus du patrimoine immobilier de l'entreprise, qui est extraordinairement modeste.
Oui.
Pardon, c'est maintenant chiffré.
133 000.
Donc, 133 000, si on prend un seuil de 2 millions d'euros pour analyser les revenus, enfin je ne vais pas rentrer, tous les chiffres seront rendus publics, d'ailleurs je pense dans les jours qui viennent, par l'Assemblée nationale. Donc on est vraiment, effectivement, dans le symbolique, parce que ça ne va pas non plus changer la vie de ces gens-là. Et moi je ne souhaite pas d'ailleurs que ces personnes fortunées quittent le pays. Il faut évidemment que le contrat social, y compris fiscal, les incite à rester. Et ce sont des citoyens qui contribuent fortement. Et certains étaient là hier. Oui. Et j'admire ce qu'ils font. C'est pas ça la question. Il faut, vous savez ce qu'on dit en Grande-Bretagne de la justice. On dit que la justice ne doit pas être juste. Elle doit apparaître comme étant juste. Et c'est très important devant l'ensemble des Françaises et des Français qu'ils aient la conviction que l'effort est partagé. Et comme on est dans une période de débat sur un redressement de nos finances publiques, ce sujet, évidemment que c'est sans doute moins important que la productivité, la recherche, les jeunes, la formation.
Oui, tout ce que c'est vous un avez sujet juste. Politique, d'abord
mais, et avant mais nous, politique. Nous sommes tous d'accord sur ces points précédents, alors que là-dessus, il y a un débat, je pense qu'il faut qu'il soit tranché.
Bon, Ludovic, un dernier mot, très rapide.
Sur Aguillon, je pense qu'il faut recentrer le débat, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un objet politique, hein, c'est une forme d'antidote Zucman, ni plus ni moins, et ce qui est important, hein, c'est-à-dire ce qui est honnêtement, maintenant, ce qui va être très complexe, parce que c'est associé quand même à une héritaxe, faut pas l'oublier.
C'est ça.
Je vais l'appeler comme ça. Mais ce qui va être très complexe, c'est que je pense qu'on est parti, malheureusement, sur une mauvaise trajectoire, parce que c'est vu comme potentiellement un dispositif qui serait un correctif des finances publiques et tout ça.
Oui, c'est ça, un nouvel impôt, quoi. Et bien sûr.
En ça, Et en ça, on va se planter. Collectivement, on va se planter. Et puis par ailleurs, ça ne pose pas, tu le disais David à l'instant, ça ne pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire que en face, on a un problème d'attractivité, d'environnement qui fait que, j'allais dire, comment l'argent circule, comment l'investissement est débloqué dans ce pays, ça ne répond absolument pas. Et je ne crois pas, honnêtement, peu importe le terme, une fondation pour avoir la capacité d'alimenter avec quelques milliards des grands dossiers que sont l'intelligence artificielle, la défense, tout ça, qui demandent un pilotage beaucoup plus structuré.
Allez, il est 9h30, on se retrouve après une très courte pause. Restez avec nous, on va parler, c'est le 4 juillet aujourd'hui, donc de la déclaration d'indépendance, les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. On va voir ensemble ce qui est devenu le modèle économique américain. Ne quittez pas.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h33, on est toujours en direct du Parc Jourdan, ici à Aix-en-Provence, pour la journée de clôture des rencontres économiques. On est encore ensemble pour une demi-heure de débat et de controverses avec le plus beau des plateaux. Deux jeunes meilleurs économistes français autour de la table, Alexandra Roulet et Xavier Jaravel. Tous les deux membres du Cercle des économistes, un ancien ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, et mon comparse Ludovic de Sauté, directeur délégué de la Tribune. On a beaucoup parlé création de richesse et partage de la valeur. Ça fait partie des sujets cœur chaque année ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On va maintenant s'intéresser au modèle économique américain. Aujourd'hui est une date particulière, nous sommes le 4 juillet et les États-Unis célèbrent les 250 ans de leur indépendance. Et en 20 ans, il faut le dire, leur économie s'est réinventée comme ils savent le faire de manière incroyable, de manière parfois plus véloce et plus agile que nous, la vieille Europe. Leur économie s'est réinventée autour de la technologie, de l'énergie, mais aussi de la dette, cette dette qui court aux États-Unis. L'Europe, l'Amérique est-elle ainsi devenue plus puissante, ou alors est-ce qu'elle a encore quelques fragilités qui risquent de la pénaliser à l'avenir? Allez, honneur aux dames, je commence avec vous, Alexandra. Qu'est-ce que vous tirez de l'évolution du modèle américain ces 20 dernières années? Est-ce qu'elle est plus puissante aujourd'hui qu'au début des années 2000?
Non, je pense qu'elle est moins puissante aujourd'hui qu'au début des années 2000 parce qu'il y a eu entre-temps la montée de la Chine. Donc évidemment, elle avait une hégémonie pendant plusieurs décennies et maintenant le monde est dominé par ce couple en fait américano-chinois. Et les Chinois, sur le secteur technologique, qui fait quand même la force des États-Unis, sont devenus tout aussi leaders. Il faut quand même, on n'est plus dans la Chine qui est dans une économie de rattrapage. Les Chinois sont devenus extrêmement puissants aussi technologiquement. Et donc il y a un espèce de contre-modèle américain qui s'est développé à l'autre bout de la planète. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'Amérique est moins puissante. On voit même que quand l'Amérique intervient militairement, comme ça a été le cas en Iran,
oui.
L'Amérique est moins puissante que ce qu'elle aurait pu espérer.
Oui.
Donc, il y a ça. Il y a le fait que l'Amérique, sur tout un tas d'indicateurs importants, a même régressé. On est quand même sur un des rares pays où on a, pour certains groupes, l'espérance de vie qui diminue.
Enfin, absolument.
C'est quand même assez alarmant.
Oui.
On est beaucoup à... On n'aimerait pas vivre aux États-Unis. Donc, pour tout un tas de raisons. Donc, qui tiennent quand même à la valeur, à l'attractivité du pays. Les États-Unis avaient une grosse force, et a toujours une grosse force, c'est sur le plan technologique. C'est ça qui tire la différence de PIB par habitant et de productivité que Xavier rappelait à juste titre en début d'émission. Donc les États-Unis sont plus riches, ça c'est toujours le cas. Ils ont toujours cette capacité d'emprunt, et on va y revenir, qui leur permet d'avoir un déficit. Ils avaient un autre très gros atout qui était donc les universités, mais sur lequel quand même Donald Trump est en train de donner...
On parlait à l'imparfait.
Bah oui.
Ils avaient.
Ah oui.
Ça n'est plus le cas.
Ah bah... Parler à là, il y a ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence des professeurs d'Harvard, des professeurs de certaines universités,
oui.
Voilà, ils sont extrêmement inquiets. Ils te, c'est les coupes, les licenciements, c'est de l'ordre de, ils ont des licenciements de staff de l'ordre de 25%. Ils peuvent dégeler sur les embauches, ils peuvent pas embaucher de post-doctorants. Ils ont les budgets de recherche qui sont complètement coupés. Ils doivent trouver se tourner vers d'autres financements. Donc non, le modèle de recherche américain est sérieusement mis à mal. par Donald Trump.
C'est intéressant.
Et c'était un des gros atouts. Sans parler de la politique, évidemment, d'immigration, parce que le modèle reposait quand même sur le fait de faire venir les talents du monde entier. Donc quand ça devient très restrictif, c'est compliqué. Et donc on ne voit pas forcément les effets tout de suite, parce que la recherche, ça prend beaucoup de temps, comme vous savez. Mais ça, c'est vraiment... Là, il s'est tiré dans le pied. Il a tiré dans le pied des États-Unis. Donc je pense qu'il faut porter quand même un regard très nuancé, sans parler de toutes les considérations politiques, sur le modèle américain. Mais il faut le reconnaître qu'en termes de PIB par habitant et de technologie, évidemment, il nous domine complètement et c'est là qu'il faut qu'on rattrape notre retard.
Xavier Ravel.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandra sur ce regard très nuancé. Peut-être du coup pour prolonger la nuance sur deux points. Sur l'aspect domination technologique, bon, on rappelait les chiffres tout à l'heure, 40% de PIB par habitant plus en Europe, c'est ce qu'on aurait
et
eu
80%
si on avait eu le même
de
niveau de croissance de la productivité qu'aux États-Unis.
Et 80% de nos services numériques en Europe qui
donc
sont
en plus on a une forte dépendance technologique. Hein. Et souvent quand on pense technologie, on pense géant du numérique, qui évidemment joue un rôle essentiel. Mais en fait, c'est que un quart de cet écart de productivité qui vient des géants du numérique eux-mêmes, de ces producteurs de nouvelles technologies. Le reste vient d'une moindre adoption, d'une diffusion plus lente de ces technologies. C'est le cas dans les années 90, 2000, 2010 sur les technologies de l'Internet, la communication. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se dessiner sur l'IA générative.
Donc trois quarts, le fait qu'on ait un taux d'utilisation de l'IA et de pénétration de l'IA dans les entreprises.
C'est ça qui, au final.
Trois quarts du recul de notre productivité.
La productivité. C'est ça le nerf de la guerre. Bien sûr, c'est pas indépendant, parce que si vous diffusez des technologies américaine, vous renforcez aussi votre dépendance. Mais c'est d'autres pratiques managériales qu'il faut avoir pour diffuser ces technologies. C'est d'autres peut-être outils de politique publique aussi qu'il faut avoir pour accompagner.
Mais c'est plein de belles promesses. Ça veut dire qu'on a des marges de progression.
Ça veut dire qu'on a des marges de progression.
Assez rapidement, on peut quand même accélérer.
Absolument. C'est bien d'avoir ce verre à moitié plein. Donc, premier point. Et ensuite, peut-être le deuxième point. Donc, tout à fait d'accord avec ce que disait Alexandra sur les effets à long terme qu'on peut craindre, qu'on peut anticiper pour les États-Unis, sur l'immigration qualifiée. Sur l'université et la recherche, je pense que je reste peut-être un peu moins pessimiste que toi, Alexandra, parce qu'ils ont une telle avance que même avec les quelques coupes qu'ils ont actuellement, ils restent incroyablement mieux financés. Et on a d'ailleurs vu très très peu de chercheurs décider de passer de l'autre côté de l'Atlantique, y compris des Européens et des Français. Donc je pense que ça reste quand même un pays qui investit beaucoup plus dans l'avenir, un pays qui investit beaucoup moins dans la protection sociale, et ça on doit le regretter, mais il me semble que les deux sont... Et donc on doit apprendre des États-Unis la partie plus investissement dans l'avenir, dans la recherche notamment.
Ben oui. Et Philippe Aguillon, encore ce matin, défendait le modèle d'une DARPA européenne pour financer l'innovation. Ludovic, avant de passer à Éric Lombard, même question.
Je vais mettre sur un autre terrain peut-être, mais parce que je pense que ça fait partie d'éclairage, c'est-à-dire que quand même un pays qui était perçu comme attractif, hein, une sorte d'aimant, de libre-échange et tout ça, tout ce qui a été décrit avec merveille par Alexandra, c'est-à-dire que c'est vraiment là, on a un changement sur l'immigration, sur le protectionnisme, enfin je veux dire le commerce est devenu maintenant un objet de sécurité nationale. Je vais partir de quelque chose d'assez basique et je vais observer ce qui se joue chez moi avec des ados. C'est surtout un pays qui fait de moins en moins rêver. Et ça, c'est un changement fondamental parce que on a été une génération, les États-Unis nous ont bercés, je le vois par extension en toute une génération qui va vous parler de K-pop, de Corée, de Japon et qui regarde vers l'Asie, là où le soleil se lève.
Et oui.
Et le soleil est en train de se coucher de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça va être un grand changement pour les États-Unis parce que le rêve américain était une réalité aussi. C'est-à-dire que c'était une zone d'attraction. On va parler de la finance après sur laquelle ils joueront. Mais attention parce que dans la grande histoire américaine, Il y a cette notion de rêve et sur lequel la génération qui arrive, ils n'achètent plus. Et c'est un grand changement.
Oui, c'est intéressant de le noter. Eric, vous connaissez très bien ce pays, vous y avez travaillé. Vous étiez à New York le 11 septembre 2001. Quel regard vous portez sur l'évolution
Tout ce que vous avez dit est vrai, mais malgré tout, d'abord, sur la planète, c'est quand même toujours les États-Unis les patrons. Pardon, mais quel pays peut se permettre d'aller renverser le chef d'État du Venezuela, d'aller faire une guerre sans aucun dialogue préalable, sans aucune justification politique autre que finalement, on a décidé d'aller bombarder l'Iran. Immense pays, grande culture, dont le régime est épouvantable, ça n'est pas la question, je ne défends pas ce régime, mais je défends des règles du jeu mondial où oui. on ne fait pas la guerre comme ça parce que on a décidé ça le matin. Maintenant, il s'attaque à Cuba.
Voilà, on Cuba maintenant. Et on l'a vu au G7 arriver en disant I'm the boss.
J'étais hier à côté du Premier ministre du Groenland. Enfin, quand même, heureusement que l'Europe a réagi avec beaucoup d'énergie. Oui. Parce que, contrairement à ce qu'on a dit, envoyer des militaires au Groenland, c'était un signal stratégique qui a été suffisant et qui a été très bien fait. Mais ce sont eux qui sont en charge. Deuxièmement, leur avance technologique, leur capacité d'adaptation, quel que soit le régime politique, est quand même quelque chose de faramineux. Alors c'est vrai que le blocage des frontières, le fait de ne pas recruter d'étudiants étrangers, c'est une folie, mais je pars du principe que cette folie ne va pas durer, qu'ils vont continuer dans la longue durée à attirer les talents du monde. En face, effectivement, la Chine n'est plus dans une situation de copie, de rattrapage, ils sont même en avance dans beaucoup de domaines, mais la Chine a un problème démographique dramatique.
Oui.
C'est que la Chine va avoir une population qui va baisser très rapidement.
Divisée par deux d'ici 2100.
À la fin, dans la vie et dans la vie économique notamment, qu'est-ce qui commande ? C'est la démographie. Si on n'a pas de démographie, on disparaît. Donc, moi, je pense qu'il faudra compter avec les États-Unis et que dans la réflexion sur le rattrapage européen qui est absolument indispensable, si on ne fait pas ce rattrapage, on aura effectivement des difficultés parce que c'est devenu un pays beaucoup moins allié et beaucoup moins en soutien. Et je terminerai là-dessus, notamment sur un plan défense, sur un plan militaire. Moi, je suis consterné de voir nos responsables, y compris en France, continuer à dire « Non, non, mais quand ce sera sérieux, il y aura les États-Unis d'Amérique. »
Est-ce que c'est un partenaire fiable encore aujourd'hui?
Non, mais regardons l'histoire. Quand il y a eu 1914, ils sont arrivés en 1917. Quand il y a eu 1939, ils sont arrivés, et parce qu'il y a eu Pearl Harbor, ils sont arrivés en 1944. Donc, moi, je ne considère pas que l'OTAN, avec les États-Unis, est un parapluie absolu. Nous devons rester dans l'OTAN, nous devons continuer à travailler avec eux, mais nous devons, y compris sur les questions de défense, être capables d'autonomie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'autonomie stratégique et militaire, ou plutôt nous en sommes capables compte tenu de la force de nos armées, de nos technologies, mais nous n'avons pas la gouvernance politique qui nous donne cette autonomie. Et ça, c'est un immense chaînon manquant dans le paysage du dialogue avec les États-Unis. Encore une fois, ne pas le faire contre les États-Unis, mais nous dire s'ils nous lâchent. Et sur l'Ukraine, franchement, au début, ils ont failli nous lâcher.
Oui.
J'étais dans les premières réunions avec le gouvernement américain. Ils ont eu un moment d'hésitation stratégique. Et ils sont tombés du bon côté. Ils tomberont peut-être pas toujours du bon côté.
Oui, enfin, les financements sont jamais venus. En plus, il a fallu...
Et les financements ont été coupés. Et c'est l'Europe qui a fait les financements et qui a eu raison de le faire. Et c'est l'Europe qui accompagne. Alors, cela dit, s'il n'y a pas Starlink qui aide l'Ukraine et qui n'aide pas les Russes, voilà. Donc, les États-Unis font des choses importantes malgré tout. Mais il n'est pas, c'est pas une donnée de la science politique. Ils le feront durablement. Et ça, c'est une immense faiblesse si on ne la traite pas rapidement.
Bon, est-ce que les États-Unis vont pouvoir continuer à vivre à crédit de manière indéterminée, Xavier Jaravel ?
L'avantage des États-Unis, c'est ce qu'on dit, c'est cette domination technologique et des taux d'imposition relativement faibles en comparaison internationale. Et donc ça c'est de nature vraiment à rassurer les investisseurs. Vous avez une croissance assez soutenue, vous avez des tendances démographiques plus dynamiques qu'ailleurs, et donc vous avez un réservoir de recettes fiscales qui en principe peut vous permettre de résorber un jour votre déficit. Et c'est toujours le débat sur la soutenabilité de la dette. Vous pouvez toujours, en principe, plus tard faire mieux, jusqu'au moment où vous allez lâcher le ballon et ne plus pouvoir l'attraper. Mais voilà, il y a cette croissance plus élevée, et cette dynamique qui continue et donc qui rassure les investisseurs.
J'ouvre une toute petite parenthèse sur la question démographique. Est-ce que cette dynamique est due à l'immigration ou est-ce qu'ils arrivent à maintenir un taux de natalité? Je veux dire, tous les pays développés voient leur taux de natalité s'effondrer.
Le taux de natalité s'effondre un peu moins qu'ailleurs. Et par ailleurs, il y avait aussi une immigration plus dynamique et plus qualifiée qu'ailleurs.
Bon, c'est peut-être la confiance en l'avenir qui fait que... voilà. Alexandra, même question.
Juste sur le rôle du dollar et la capacité des États-Unis à se financer comme ça vis-à-vis du reste du monde, ça dépend aussi un peu des alternatives. Donc, c'est-à-dire que ça dépend aussi un peu de ce qu'on fait en Europe. Si l'euro peut devenir monnaie de réserve, si on fait l'union des marchés de capitaux, etc., ça a des répercussions aussi sur les États-Unis parce que tout ça est un jeu... ça dépend bien sûr de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc nous, je pense que on doit évidemment, et par rapport à tout ce qui a été dit que je partage, enfin, du point de vue de nous, Européens, ce qu'on doit faire, c'est absolument se construire aussi fortement qu'on peut pour en effet ne pas dépendre des États-Unis qu'ils soient fiables ou pas, on ne pourra jamais parfaitement le prédire, mais en tout cas, on ne doit pas, s'attendre à ce qu'il nous, il nous défende nécessairement. Donc, il faut qu'on soit souverain de ce point de vue-là. Et puis, il faut qu'on soit fort économiquement pour peser, ne serait-ce que parce qu'on veut pouvoir, dans les discussions internationales, infléchir les discussions vers les endroits qui nous importent. Par exemple, la transition climatique. Maintenant, ils s'en fichent. Nous, c'est quelque chose qui nous semble important. Bah, si on veut peser dans ces discussions, il faut qu'on soit respecté économiquement.
Ben oui, ça, c'est le quid du réveil européen, hein, Ludovic, puis Eric, qu'on attend toujours. On a tout le mode d'emploi, si je puis dire, avec les rapports à l'État et Draghi. L'implémentation, c'est plus compliqué.
J'entends, hein, d'ailleurs, nos remarques sont assez convergentes, mais je pense aussi qu'il y a un point commun, c'est-à-dire que c'est quand même, tendanciellement, c'est un pays qu'on comprend de moins en moins bien, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Ce qui se passe avec Trump, il y avait déjà des signaux annonciateurs qui précédait, c'est-à-dire que c'est pas Trump n'est que le résultat d'une séquence, j'allais dire, malheureusement. Et là, Eric, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense que c'est beaucoup plus profond que vous. C'est-à-dire que peu importe, malheureusement, résultat de l'après Trump, il y a quelque chose profondément qui a changé dans le logiciel américain. C'est un pays qui s'est éloigné. Alors la question sur laquelle on partait, c'est la notion de gérer de dette. Bah, d'abord, faut espérer que les États-Unis s'en sortent parce que gérer s'ils s'en sortent pas sur la dette, on peut être bien en Europe. Hein, vu c'est le premier effet parce que le château de cartes va être très compliqué vu le côté européen. Maintenant, et je vais positiver, vous allez dire, ça y est, reparti en bisounours, je pense qu'il y a une énorme fenêtre d'opportunité pour l'Europe entre ces deux blocs dont parlait Alexandra, la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que l'Europe a vraiment une capacité à devenir un modèle attractif au plan économique, mais aussi au plan civilisationnel, ce qui est tout aussi important.
Il y a des valeurs, en tout cas, effectivement.
Non, mais il faut le dire. C'est-à-dire que il y a un récit européen aujourd'hui qui peut être une contre-proposition, mais une contre-proposition assez fondamentale. À nous de la saisir. Hein. C'est une magnifique fenêtre d'opportunité, je le crois profondément.
Cette politique de America First, les Américains d'abord, elle date pas de Donald Trump, hein. Je veux dire, on a commencé avec Barack Obama, en réalité, ce recentrage des États-Unis sur eux-mêmes.
D'abord, historiquement, il y a toujours eu des phases de recentrage depuis 250 ans, puisqu'on célèbre aujourd'hui les 250 oui. ans. Et cette séquence a été ouverte très clairement par Barack Obama. Je rappelle que Barack Obama a organisé le pivot vers l'Asie, que quand le président Hollande, très courageusement, a voulu sanctionner la Syrie de Bachar el-Assad, qui avait gazé sa population, et la France était prête à y aller, mais avait besoin du soutien américain, et ce sont les Américains qui ont empêché qu'on manifeste, qu'on mène cette action qui était nécessaire. Donc effectivement, ça dure, et ça va durer pendant encore un certain temps. C'est pour ça que je pense que dans la durée, il faut qu'on devienne stratégiquement indépendant. Je veux revenir sur la question des finances publiques que vous avez évoquées, qui est un sujet qui m'est cher.
Oui.
Quand j'en parlais avec Scott Bessent, ce qui était le secrétaire au trésor
américain,
ce qui est complètement fascinant, c'est qu'on a quasiment les mêmes chiffres en matière de finances publiques. L'année dernière, ils étaient à 7% de déficit, nous étions à 5%, voilà. Ils sont à plus de 100% de dette sur PIB, nous, oui. On est à plus de 110%. Et en plus, leur taux d'intérêt à long terme.
Même à 117, on approche les 120 là.
Oui, ouais. Oui, j'ai essayé d'être modeste.
Ça va vite, oui.
Et leur taux d'intérêt à long terme sont plus élevés que les nôtres.
Oui.
Mais en face, ça crée de la croissance.
Eh oui.
Ça crée de la richesse, alors que nous, une bonne partie de ces déficits, c'est pour financer les retraites et nos dépenses de santé, qui sont des dépenses légitimes,
oui.
Mais il faudrait réfléchir à un financement plus durable. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, comme quoi sur la soutenabilité du modèle, effectivement, nous, on sera en butée de soutenabilité bien avant, compte tenu de l'utilisation de cette dette, alors que sur les États-Unis, la question ne se pose pas, ou peut-être presque pas. Parce que je veux rappeler qu'en avril dernier, il y a un an, le moment du Liberation Day,
oui.
Quand Trump a tapé trop fort sur les tarifs, ils ont frôlé l'incident de marché, qui aurait été pour le coup un incident planétaire, et pendant deux jours, on s'est demandé si les marchés obligataires américains n'allaient pas...
À deux ou trois reprises, hein, les taux longs ont touché les 5%, et à chaque fois, Trump a reculé. Hein,
et Trump a reculé à chaque fois, parce que... comme l'ont dit les économistes américains, l'homme le plus puissant du monde, c'est le marché financier américain.
Si je devais me réincarner, ce serait un marché américain, un marché obligataire.
Voilà, bon, cela dit, c'est moins drôle.
Mais c'est puissant.
Et donc, ce qui est pour nous une limitation, pour eux, ça n'est pas une limitation. Mais à la fin de la journée, nous devons reprendre notre autonomie stratégique, notre autonomie industrielle. Sinon, on aura effectivement des graves difficultés parce qu'ils sont dans une période où ils ne sont pas là pour nous.
Oui. Bon, en même temps, on a besoin d'eux aussi et ils ont besoin de nous en termes d'échange. Je veux dire, le protectionnisme, c'est... On a souvent cette image de l'économie ultra-libérale américaine qui s'est quand même convertie au protectionnisme. C'est le thème de ce débat-là, le virage protectionniste des États-Unis. Est-ce que ces échanges ont véritablement baissé entre nous, Xavier Jaravel?
Au niveau macro, les tendances sont assez faibles. Et d'ailleurs, c'est toujours utile de se rappeler du point de départ, qui est que les États-Unis sont un pays donc très grand et donc en fait relativement peu ouvert d'un point de vue macroéconomique. C'est 15% du PIB américain, l'ampleur des importations. Le pays européen moyen, c'est entre 30 et 50%.
Oui.
Tout simplement, mécaniquement, du fait de la taille du pays. Donc en fait, se fermer pour un pays comme les États-Unis, c'est beaucoup moins coûteux que ça ne le serait pour un pays comme la France.
Et après, on peut imaginer...
Et après, il y a aussi les enjeux énergétiques qui sont majeurs. Toutes les analyses qui ont été faites jusqu'ici montrent que cette politique commerciale a été un échec. C'est-à-dire qu'elle a fait peser des coûts d'abord sur les consommateurs ou sur les entreprises américaines. Et donc ce narratif de Trump qui est de dire que les...
On va faire payer l'extérieur.
On va faire payer les importeurs, on fait payer l'extérieur. Ça a l'air d'être du bon sens, puisque vous mettez une taxe sur les importations, mais en principe, ce qu'on appelle l'incidence fiscale, c'est-à-dire les prix s'ajustent, qui paye effectivement...
C'est le consommateur final.
C'est pas d'ailleurs une loi naturelle que ça devrait être le consommateur, mais il se trouve que dans ce cas-là, les dynamiques concurrentielles sont telles que c'est effectivement quelque chose qui a été passé au consommateur parce que le pouvoir de marché est plutôt du côté de ces importateurs.
Il y a aussi été perçu que ça aux États-Unis, je trouve.
Ça a été mesuré de manière très précise dans la première guerre commerciale de 2018.
Oui.
Et là, maintenant, ça fait un an, Liberation Day. Donc, ça prend du temps parce qu'il y a des phénomènes d'inventaire. Donc, les études qui existent, Alberto Cavallo à Harvard, par exemple, ils montrent effectivement cette hausse progressive de. Mais vous voyez, comme ce n'est que 15% du PIB américain et comme c'est surtout sur certains pays. C'est que 2% du PIB américain qui est vraiment concerné par ces tarifs. Et donc, sur l'inflation agrégée, ça ne va pas être un phénomène majeur. Et donc, en fait, c'est là aussi peut-être c'est plutôt un sujet politique. C'est-à-dire que c'est un narratif qui n'est pas nécessairement immédiatement démenti par les faits parce que l'inflation dépend de beaucoup d'autres facteurs au niveau agrégé. Mais quand vous regardez dans le détail au niveau micro, vous voyez bien que les consommateurs américains ont perdu du pouvoir d'achat. Et que donc, pour l'Europe, il faut avoir une stratégie commerciale qui prennent en compte pleinement tous ces enjeux géopolitiques de dépendance à la fois face aux États-Unis et à la Chine, mais qui résistent à l'appel d'un protectionnisme à tout craint,
oui,
qui est très simple politiquement, sur lequel on s'égare parfois même en France.
Vous trouvez, oui.
Il y a une étude du Haut Commissariat au Plan, pour ne pas le citer, qui faisait cette proposition.
Rédigée notamment par Thomas Grébin, invité régulier des experts, qui propose 30% d'augmentation des droits de douane pour se protéger des surcapacités chinoises.
Une proposition qui jusqu'ici, et j'espère, va continuer de faire l'unanimité contre elle au sein du reste des économistes français, ou quasiment.
Oui, voilà. Alexandra.
Alors juste deux choses pour rappeler qu'en fait aux États-Unis, enfin il y a la question des droits de douane sur laquelle je vais revenir, mais il y a aussi le protectionnisme plus généralement. C'est pas que les droits de douane.
Oui, on a les normes aussi.
Et en fait,
des subventions peut-être davantage aujourd'hui.
Et ça, je pense qu'il y a
un
consensus un peu bipartisan aux États-Unis pour avoir quand même une politique relativement protectionniste. Et ça prédate Trump, comme ça a été très bien dit, c'est-à-dire que par exemple l'Inflation Reduction Act de Joe Biden. C'était protectionniste, c'était principalement pour contrer la domination chinoise. En fait, je pense vraiment cette rivalité avec la Chine, c'est un facteur explicatif de beaucoup de décisions de politique américaine.
Ah oui.
Et le seul problème, c'est que ça a des répercussions sur nous.
C'est nous.
C'est pas fait pour nous nuire en première intention, mais en corollaire, ça nous nuit. Donc, le fait qu'il y ait un consensus bipartisan, ça fait que je pense que, au-delà de Trump, il faut s'attendre à ce changement de logiciel américain. Sur les droits de douane, évidemment, les faits, il met un peu de temps à se matérialiser quand même. Donc, on n'a pas encore vu tous les effets.
Il y a des allers et retours, effectivement.
Donc, quand on a des droits de douane un peu pérennes, oui, ça dépend aussi sur quels produits on les met, l'élasticité de la demande ou pour ces produits, est-ce que ça va être passé sur les consommateurs ou est-ce que les producteurs étrangers vont devoir réduire leurs marges. Tout ça, ça va dépendre vraiment de la structure des droits de douane. Donc, je pense que c'est un peu tôt pour faire un bilan.
Juste pour rappeler sur les droits de douane, parce que, évidemment, je partage, parce que c'est ni plus ni moins qu'un impôt, une taxe levée, en fait, aujourd'hui, dans le jeu. Après, il y a quand même un effet sur lequel il faut être vigilant, et on commence à le voir apparaître sur certains secteurs. Je pense à la santé, je pense à une petite partie de l'industrie. C'est aussi le chantage au financement, c'est-à-dire au fait d'aller réimplanter de la production localement. Et c'est là où le vrai bras de fer. Et puis après, attention aux droits de douane, puisqu'on a vécu le fléchage aussi des exportations chinoises. C'est-à-dire qu'on a derrière un poumon, un muscle, un athlète en termes d'industrie qui s'appelle la Chine. Et là, l'Europe aujourd'hui prend ce tsunami en direct.
Eh oui, au muscle taillé. Éric Lombard.
Oui, sur les tarifs américains.
Pourquoi est-ce qu'on a convergé vers 15% dans l'accord final? Parce que l'analyse que faisait le ministère des Finances et que j'ai regardé en grand détail, c'est qu'à 15%, ça nous handicapait pas trop, et on le voit bien d'ailleurs, il n'y a pas eu d'évolution majeure des exportations vers les États-Unis.
C'était le taux le plus bas au monde, hein. Il y avait plusieurs pays qui disaient, mais comment vous avez fait pour négocier 15%?
L'Europe a très bien négocié.
Et alors, on s'est senti humilié quand même, Eric Lombard, la signature dans le Golfe de Donald Trump.
Alors, il y a la négo et il y a l'attitude, et sur l'attitude, on n'a pas été bon. Ouais. Et réciproquement, sinon, la riposte, c'était de mettre, nous, des droits de douane sur nos importations, et ça abîmait notre économie. C'est pour ça qu'on a trouvé ce point d'équilibre qui, manifestement, dans la réalité des faits, n'a pas d'impact trop négatif et a plutôt des impacts, comme vous le disiez, sur l'économie américaine. Alors après, sur le rapport du plan et sur le protectionnisme, entre guillemets.
Il y a deux volets hein, dans ce rapport d'ailleurs. Il y a une hausse généralisée des droits de douane pour protéger notamment notre industrie automobile, 15 millions de salariés quand même de 30%. Et aussi, il y a le volet monétaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accusations de manipulation de cours sur le renminbi notamment, et qu'on pourrait piloter l'euro.
Donc ça me fait deux sujets, mais en quatre phrases. Sur les filières industrielles, le désaccord que j'ai avec le plan, c'est qu'on ne peut pas faire 30% sur tout, et d'ailleurs, ça ne sert à rien. En revanche, il faut regarder les domaines sur lesquels il y a du dumping chinois, le documenter, et on l'a fait, j'y avais beaucoup travaillé l'année dernière, sur l'acier, à juste titre, avec des quotas, des droits de douane. Il faut le faire sur la chimie, il faut le faire sur l'automobile, il faut faire sur toutes les filières sur lesquelles il y a une asymétrie et du dumping. Sur les monnaies, vous vous souvenez qu'il y a très longtemps, il y a eu les accords du Plaza entre les trois grandes monnaies. Le temps n'est plus du tout à des accords de ce type. Donc on peut regretter la sous-évaluation du renminbi et du dollar.
Oui.
Bon, voilà, on note.
On n'a plus les moyens
de toujours en parler aux Chinois. Ils vont nous regarder avec un grand sourire et ça ne fera pas avancer le schmilblick.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Lombard, Ludovic de Sauté, Xavier Jaravel et Alexandra Roulet pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. C'était la dernière des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On se retrouve lundi en direct de retour sur le plateau de BFM Business. Très bon week-end à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.